Les Faramineux, aujourd'hui, début de semaine, nous sommes avec Jamin Stouki. Bonjour Jamin.
Hello, c'est pour ça qu'il y a marqué les Faramineux, parce qu'en fait, il y en a deux. Il y en a trois, il y en a trois, parce qu'il ne faut pas oublier.
Parce que, dis donc, Nicolas, sans lui, on ne peut pas faire l'émission, alors.
Bien sûr qu'il en fait partie.
Bravo aux branches, c'est le cas de le dire. Donc Jamin Stouki est avec nous pour son billet d'humeur qui s'intitule, écoutez bien, dispute linguistique. Je n'en sais pas plus, comme vous, je vais le découvrir dans un instant. Après, en deuxième partie d'émission, on va présenter différents spectacles que l'on peut voir maintenant qu'on peut aller en salle de nouveau. Et je vais peut-être parler aussi de l'expo du Musée des Beaux-Arts parce que je trouve ça très très intéressant. Pour l'instant, nous commençons en musique avec Madeleine Perroux qui nous chante Bye bye love. Enfin, c'est plutôt ce que je t'aurais dit à la fin de l'émission, mais là je vais te le dire au début. Mais pars pas, reste.
Bye bye, parce que love, mon amour, va te...
On va me dire, allez, musique. Ah ben alors voilà, j'entendais plus le micro, il s'allumait pas. La petite lumière rouge qui me dit Arlette, tu peux parler, ça y est, tu peux parler. Bon, ben, Jamin est toujours avec nous, il n'est pas parti.
Donc, non, je ne dois pas partir.
Jamin, on fait le billet d'humeur, on parle de dispute linguistique. Que va-t-il nous dire toujours quelque chose de très intelligent? J'essaye de le caresser dans le sens du poil pour que ce soit pas, pour que ce soit assez correct.
Intelligent, ça je ne sais pas, j'attends toujours ton retour et celui de...
De Nicolas ?
De Nicolas, hein, oui. Ou des auditeurs aussi, pour savoir cela.
Oui, dites-le nous, vous, plutôt, parce que Nicolas est plutôt gentil et moi, je le connais trop. Donc, Allons-y, on t'écoute.
Mais voilà, je vais toujours essayer d'être impertinent. Et puis là, ça va être... Vous me direz. Parce que je vais parler de quelque chose qui est en parallèle avec ce que j'ai vécu en Belgique, dans ma jeunesse, entre guillemets. Hein.
Alors, il y a très, très, très longtemps.
Voilà, c'est ça. Vous voyez, ça commence bien. Hein. Et que je ne pensais plus revivre cela, hein, du moins plus en 2022, plus au 21e siècle quand même. Hein.
Parce donc, que toi, c'était au 20e siècle encore.
Voilà, et oui, exactement.
Et oui,
hein, toi aussi, d'ailleurs. et blanc.
Moi, j'ai rien dit du tout, j'ai pas de souvenir.
Donc, François Legault est en train de diviser le Québec. Je m'excuse si je m'obstine sur lui, mais c'est parce que pour le moment, dans l'actualité...
On le sait que tu l'aimes, on le sait.
Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas aimer. J'essaye d'être objectif, mais c'est le sujet. Et malheureusement, c'est lui qui l'a amené. Donc voilà, je voudrais être clair. Voilà. Donc, Monsieur Legault est en train de diviser le Québec, non pas avec ses mesures politiques sanitaires, non, mais dans une dispute linguistique entre francophones et anglophones. Oui, pendant un débat sur la définition de qui est québécois à l'Assemblée nationale à Québec, ça a donné lieu à des échanges houleux concernant l'abandon du projet d'agrandissement du collège Dawson, ainsi que sur le bilinguisme des juges. Je ne sais pas si tu es au courant.
Ah non, pas du tout, je n'écoute pas.
Voilà. le ministre Jolin Barrette, je crois qu'il est ministre de la Justice, voulait absolument n'avoir que des juges francophones. Donc là, je fais une petite aparté qui n'est pas dans ma chronique pour expliquer. La chef des juges lui a dit non, vous êtes ministre, vous êtes un politique, vous n'avez pas à intervenir sur les nominations, les trucs, etc. Ouais. C'est de notre ressort et chez nous, les juges de la Cour supérieure sont bilingues, c'est une obligation, oui. Point barre. Vous n'avez pas mot au truc. Et donc, là-dessus, ça revient. Et puis, je vais continuer sur l'autre part. Donc, ouvrez les guillemets. Je ne m'excuserai pas de défendre le français à balayer d'un revers de main le Premier ministre. Reprenant le ton d'une publicité télévisée gouvernementale, sur la chef de l'opposition officielle, donc Dominique Anglade, du Parti libéral, a demandé au Premier ministre « Comment on appelle ça un francophone qui étudie à Dawson ?» C'est là où c'est la parodie de la fameuse publicité qui... En tout... 50% seulement des étudiants à Dawson sont des anglophones. La moitié ne sont pas des anglophones, donc la moitié sont des francophones. Donc, comment on appelle des étudiants qui étudient à Dawson ? Et Legault de répondre, est-ce que c'est mieux d'agrandir des cégeps francophones avant d'agrandir des cégeps anglophones ? Nous, à la CAQ, on pense que oui, car on pense aux Québécois. Je ferme les guillemets. D'accord ? Donc, pour Legault, les anglophones ne sont pas des Québécois. Donc, si on suit sa logique, tout comme les immigrés, les gens d'autres origines, ils ne sont pas Québécois. Hein ? Ces gens travaillent au Québec, habitent au Québec, payent leurs impôts au Québec. Impôts qui servent à payer le salaire de Legault et de son gouvernement, soit dit en passant, je referme la parenthèse. Mais ils ne sont pas Québécois. Pire, Legault a dit, et je cite ces mots, ouvre la virgule, « Les gens sont Québécois s'ils sont caquistes. » Je referme les guillemets.
Mais il était dans un truc humoristique.
Il veut faire un stand-up. Mais oui, quand je disais que c'est le seul comique qui peut s'exprimer, maintenant il y en a d'autres, donc je m'exprime. Et tout ça a été fait au Salon Bleu, donc à l'Assemblée de Québec. Hein. Attention, hein, c'est pas. Et tout ça est vrai, vous pouvez aller vérifier dans la presse. Donc, j'en reviens. Donc, les gens sont québécois s'ils sont caquisques. Donc, ce que le Premier ministre dit très clairement, c'est que les gens qui sont d'appartenance libérale, ou Québec solidaire, ou Parti québécois, ou Parti conservateur, ou les gens qui n'ont aucune affiliation politique, quelle qu'elle soit, ils sont pas québécois. Donc si mon voisin avait dit quelque chose comme ça, j'aurais déjà trouvé ça indécent. Mais que le Premier ministre du Québec le dise, c'est inacceptable, c'est indigne de ses fonctions. Donc bravo. Bravo, monsieur le Premier ministre du Québec.
On fait un concours à ceux qui vont la plus belle bévue.
Et je dis oui, du Québec. Pas juste des Québécois caquistes francophones. Oui, vous êtes le ministre de toutes les personnes habitant au Québec. Toutes, sans exception. Les francophones, les anglophones, les arabes, les turcs, les russes, les français, les africains, les libéraux, les conservateurs, les nains, les trisomiques, tous. Après la division et la grogne sociale due au Covid, il va recommencer à diviser les gens avec les langues, les origines ou les orientations politiques. Nous ne sommes plus dans du protectionnisme ou du nationalisme, là. Mais on s'en va bien vers du racisme. Oui, oui, j'utilise ces mots forts, car c'est ça. Et je peux le dire, car je l'ai déjà vécu dans mon pays natal, la Belgique. Les disputes et les conflits linguistiques, je suis né avec. En Belgique, il y a 3 langues officielles. Le français, le néerlandais, le flamand, quoi, hein ?
Oui.
Et l'allemand. Mais attention, les langues officielles ne se parlent que dans leurs régions respectives. Le flamand en Flandre, le français en Wallonie et l'allemand à l'est, vers la frontière allemande, dans la partie germanophone. Sauf à Bruxelles, qui est bilingue flamand-français. Je suis né et j'ai vécu à Bruxelles, ville francophone à 90%, mais située dans la région flamande. C'est-à-dire que dès que tu sors de Bruxelles, t'es en Flandre. C'est comme si la rive sud et Laval étaient anglophones. Et l'île de Montréal était francophone. Et dès que tu sors, t'es en région anglophone.
Oui. Il suffit d'un arrêt de métro
et hop. Voilà. Donc vous avez l'image. Bruxelles est bilingue. Il y a 2 langues, flamand, français. Tu peux avoir tes documents dans la langue de ton choix. Parler avec les habitants ou un commerçant de Bruxelles dans une des 2 langues de ton choix, c'est une obligation. Tu peux pas juste t'exprimer en français ou en flamand, mais bien les 2. Et là, je fais une autre anecdote, c'est-à-dire que tu peux avoir une conversation avec un flamand qui va te répondre en flamand et toi, tu lui parles en français. Ça me dérange pas, je trouve ça génial. Il y a un échange, mais tu ne peux pas refuser à Bruxelles de parler une des 2 langues. C'est une obligation, on apprend ça à l'école tout petit. J'en reviens à ma chronique. Mais dès que tu sors de Bruxelles, tout est en flamand. Pas de français. Avec tous les troubles que cela peut engendrer. Imaginons qu'on transpose ça ici, à Montréal, tout en français, comme on le vit actuellement, et dès que tu sors, tout en anglais. Panneau de signalisation en anglais, adresse en anglais, administration en anglais, et tous les documents administratifs sont en anglais. Ça veut dire qu'un francophone qui vivrait à Laval, eh ben, va voir tous ses documents obligatoirement en anglais sans avoir le choix. Mais pas un Montréalais qui peut choisir sa langue de communication à Montréal. Et on a donc une frontière linguistique. Rien de physique, hein. Tu dis, mais dès que tu mets le pied dans la région linguistique, tout est dans la langue de cette région. Point. Tu en arrives à ce que même des touristes ne s'y retrouvent pas. Oui. En Belgique, tu prends l'autoroute, tu veux aller à Lille par la Wallonie, pas de trouble. Lille qui est une France dans le nord de la France. Mais si tu es en Flandre, non, non, c'est indiqué Rijssel. Et il n'y a que marqué Rijssel. Pour les Flamands, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es francophone ou même un Français, il ne sait pas comment retourner chez lui. Tu veux aller à Mons, c'est Bergen. Liège, Leuk. Car en flamand, ils ont traduit le nom des villes. Ouais, c'est ça. Ils ont, oh, moi, c'est comme ça, je le traduis. Et ce problème linguistique a eu des conséquences tragiques en Belgique qui illustrent cette bêtise. Il y a quelques années, entre 2 villes, Leuven en Flandre, Louvain en français, et Louvain-la-Neuve en Wallonie, on ne l'a pas traduit en flamand celle-là, il y a une voie de chemin de fer qui relie les 2 villes. Mais sur un tronçon, pendant quelques kilomètres, la voie numéro 7, les 2 voies ne font plus qu'une. Et il y a un feu qui gère le passage d'un sens et dans l'autre. D'accord ?
Oui.
Pour éviter que les trains ne se percutent. Un jour, ces feux de signalisation ont eu un dysfonctionnement. Un train du côté francophone s'est engagé sur la voie unique, mais le feu du côté flamand ne s'est pas mis au rouge. Quelques instants plus tard, un train du côté flamand s'engage lui aussi sur la voie unique. Et là, un employé, un aiguilleur des chemins de fer, s'en rend compte du côté francophone et il appelle aussitôt son collègue du côté flamand pour lui signaler l'erreur. Et il lui dit « Je suis le contrôleur de Louvain-la-Neuve. Il y a un train qui s'est engagé sur la voie numéro 7, mais le feu rouge ne marche pas. Il ne faut pas qu'un train s'engage de votre côté alors qu'il y a déjà un train dessus. Hein. » Et le contrôleur flamand lui répond de suite « T'spait me, ik begreep niet Frans. » Étant bruxellois, je suis donc bilingue. Je traduis, je suis désolé, je ne comprends pas le français. Le francophone, ne parlant pas le flamand, essaye de se faire comprendre de son collègue flamand. un train, un train est sur la voie. Le feu rouge, red feu, n'a pas fonctionné. Il faut arrêter, stop, le train de votre côté pour que Nit il s'engage. Le flamand, ne faisant aucun effort, begrijp niet, hein. U moet niet Nederlands spreken, hein. Mais je parle pas flamand, c'est une cave. Attention, il y a un train là qui vient de Louvain, et il y en a un autre train qui est sur... Ils vont se percuter là. Et l'autre, le flamand, ik begrijp niet in Nederlands. Mais bordel, regarde ton tableau, le feu ne marche pas. Il y a un train sur la voie numéro 7. Et pendant qu'ils se chamaillent, ils ne se comprennent pas, un train s'est engagé du côté flamand sur la voie de fer. Et bien entendu, est entré en collision avec l'autre train. Bilan, plus de 100 morts et des centaines de blessés. Oui, une histoire belge dont je me serais bien passé.
Oui.
Cette dispute linguistique a entraîné des morts. Oui, oui, ça a fait un tollé en Belgique. Et ça peut arriver ici aussi. Mais le plus stupide dans tout cela, c'est que l'enquête a révélé que le contrôleur francophone ne parlait pas flamand, mais que le contrôleur flamand était bilingue.
Il n'a pas voulu...
Il comprenait et parlait le français. Mais par sa bêtise de conflit linguistique, il n'avait pas écouté son collègue. Dès qu'il avait entendu parler français, il s'était enfermé dans un truc. Je vais juste... Ils sont tous les deux belges, tabarnak. Comme ici, on est tous québécois. D'accord ? On s'en fout que tu sois dans une région linguistique ou l'autre. Tu dois parler les mêmes langues de ton pays. Ne pas risquer la vie de tes concitoyens pour des idéologies stupides. Le contrôleur flamand a été condamné à de la prison ferme pour mise en danger de la vie d'autrui à cause de sa mauvaise foi. Et le francophone a dû devenir bilingue pour garder son emploi. Il n'a eu qu'un blâme. Depuis, tous les employés de la fonction publique belge, toutes régions confondues, quelle que soit leur adresse, doivent être bilingues. Il y a toujours une dispute linguistique. Mais dans les administrations belges, le citoyen peut se faire servir dans la langue de son choix, quelle que soit son adresse. Et pourtant, je reste positif parce qu'il y a des exemples de pays, de nations fédérales avec plusieurs langues officielles qui fonctionnent. Oui, ça peut fonctionner. Le Luxembourg, il parle luxembourgeois, français et allemand. Et le plus connu, la Suisse.
Oui.
Français, allemand, italien. Donc c'est possible. Si les politiciens font leur travail, au lieu de jouer à de stupides jeux politiques électoralistes. Oui. Il y a un enseignement de toutes les langues officielles du pays, plus l'anglais, d'accord ? Et en plus, il y a des cours dans toutes les langues officielles du pays. Je parle de ces pays où ça marche, d'accord ? Ils ont des cours de français en langue, des cours d'anglais en langue, des cours d'italien, ok. Mais après, ils ont des cours de maths et d'art en français, des cours d'histoire et de sciences en allemand, des cours de géographie et de sport en italien. Et voilà ce qu'on devrait faire au Canada aussi. Québec y compris, mais surtout le Canada. Des cursus scolaires identiques partout au Canada. Des cours de langue français et anglais partout au pays. Des cours généraux dans les deux langues, comme par exemple maths, histoire et sport en français, sciences, géographie et sport en anglais, et l'art dans les deux langues. Ce serait tellement bénéfique pour tout le monde et tout le pays. Cela renforcerait aussi l'économie. Et surtout... Cela supprimerait les problèmes et disputes linguistiques. En Alberta, au Manitoba, au Québec, en Colombie-Britannique, on parlerait tous français et anglais, sans que cela ne change notre identité ou origine. Mais je suis un éternel optimiste, un brin utopiste. Je crois en la nature humaine, même si elle m'a souvent déçu. Tendons la main vers l'autre, plutôt que de le gifler. Soyons tolérants, plutôt que sectaires. Et surtout, faisons l'amour dans n'importe quelle langue et avec n'importe quelle langue.
Wow ! Musique.
We'll be right back.
Alors, j'en demande pardon par avance, hein, mais je vais annoncer le chanteur et la chanson. Et je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, Goran Bregovic, ça va. Mais la chanson, c'est la traduction, c'est Yaya Ringe ou Ringe, je ne sais pas, Raja. Alors, on va dire Yaya Ringe Raja ou Ringe Raja.
Je ne sais pas si c'est du slave, mais il faut que tu parles slave, là. Qu'est-ce que tu viens de dire?
Ben oui, justement.
La tolérance sur les langues.
Alors, justement, tolérance, laissez-moi le temps d'apprendre. Alors, justement, tiens, revenons un petit peu là-dessus et puis sur le... J'ai envie de dire sur tout le Canada, parce que le Québec est une chose, mais le Canada aussi, il ne faut pas vraiment d'efforts pour la langue française.
Tout à fait, je ne tape pas d'un côté plus que de l'autre, c'est que le postulat de départ vient d'ici vu qu'on y vit, mais effectivement, de l'autre bord, c'est le même problème. Donc c'est pour ça que je parlais
des
politiques sur la fin.
Après, des bêtises qui ont pu être dites et qui n'avaient pas de sens,
voilà,
ça c'est autre chose.
Mais oui, bah,
pour
les assumer,
pour
quand
le... Bah oui, mais ça c'est à lui à les assumer.
Et c'est pour ça que je faisais la comparaison avec d'autres États, qui sont aussi des États fédéraux, et où ça fonctionne. Donc là, je ne parlais pas juste de dire, tiens, au Québec, non, je dis, sur le Canada, on disait en antenne, le Canada est bilingue. OK, donc français, anglais. Pourquoi le ministre de l'éducation, le ministre de l'immigration canadienne, donc au fédéral, est anglophone et ne parle pas français? Pourquoi le patron, le PDG de Air Canada, ne parle pas le français?
Oui, tout à fait.
Pourquoi? Donc, ça va dans les deux sens. Je tape autant d'un côté que de l'autre. Je suis parti à partir du Québec, parce que c'est ce que je vis tous les jours, et j'ai voulu partager cette anecdote qui nous a énormément marqué en Belgique, parce que ça montre la stupidité de la chose, mais c'est vrai que c'est dans les deux côtés.
La stupidité
côtés.
De l'humain,
voilà,
surtout,
c'est aussi. Dans les deux côtés. Je ne dis pas que les Québécois ne font pas d'efforts et que les Canadiens de l'autre côté anglophone n'en font pas forcément plus non plus. Je dis, mais justement, élevons le débat. Il y a tellement de problèmes autres aujourd'hui, ils sont obligés de se battre sur ça. D'accord ? D'avoir un commerce qui s'appelle Subway, non, il faut l'appeler Métro. C'est une marque, tabarnak, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est pas ça le plus important.
Si celui qui vient, vers qui on va acheter quelque chose, nous sert dans la langue que l'on comprend le plus, c'est ça le primordial.
Voilà, que quelqu'un me parle et me répond en anglais, et moi il me comprend très bien en français, ça me dérange pas. Alors, au contraire, c'est nourrissant. Mais effectivement, il faut que ça aille dans les deux sens.
On va finir sur une chanson.
Oui.
Écoute, c'était pas fait exprès, parce que je savais pas encore à ce moment-là ce que t'allais nous faire. Mais j'ai choisi Dominique A, qui nous chante « Il ne faut pas souhaiter la mort des gens ».
Voilà. Restons vivants.
Restons vivants.
Même à celui qui ment, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Il y a bien des cas où, mais même dans ces cas où, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Ça n'est jamais assez méchant. Tout le fiel, impeccable, s'abstient de tout effort. Pour parler comme il parle, pour se faire fort d'avoir tort. À la vieille, à l'affût, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Il y a bien des fois où, mais même pour ces fois où, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Ça les fait vivre plus longtemps. Celui que l'on aime bien, il s'accroche, il s'accroche. On rêve de le faire boire dans la joie, l'épuiser. Ceux qui meurent, qui s'en vont pour de bon, dont on ne peut plus souhaiter la mort. C'est l'heure de pardonner l'amour en bon dernier, déballe sans y croire des trésors, puis se fait passer sur le corps. Et le temps de se faire oublier est bien long. Tant que d'autres ont encore de quoi vous dénigrer. de souhaiter la mort de ces gens. Aux bavards patentés, à la femme furibarde, avec tout le temps qu'on leur prend pour nous haïr, c'est indécent de souhaiter la mort de ces gens.
Alors restez avec nous, dans la deuxième partie de cette émission, on va parler du Musée des Beaux-Arts, on va reparler un petit peu de linguistique, et puis on va parler des théâtres qui réouvrent, des choses qui font plaisir, des spectacles. Ouais, ouais Nicolas, allez on y va. À tout de suite.
Écoutez les Faramineux avec Arlette Farah.
D'écouter Sonido Besao qui nous chantait Moretinita. J'étais en train de faire l'inverse.
C'est vraiment pas doué. Moi, entre le serbe et puis là maintenant. C'est...
Je suis pas doué pour les langues étrangères, c'est vrai. Par contre, comme je te le disais hors antenne, il existe pour ceux qui sont comme moi, qui ont des difficultés à apprendre d'autres langues, ben, la possibilité, il y a un petit appareil qui aujourd'hui doit coûter dans les $60. Ça fait deux restos où vous allez pas. Voilà. Et puis, vous achetez cet appareil et quand vous êtes en conversation avec quelqu'un dont vous ne comprenez pas la langue, vous mettez directement, ça se traduit.
Ça traduit directement. Mais je pense qu'il doit y avoir des applications même pour ça maintenant avec les téléphones.
Là, ça va encore plus vite. T'as l'appareil ouvert, tu me parles, tu me dis Arlette, comment vas-tu ? Je le comprends tout de suite. Et je dis en français, je te réponds oui, je vais bien et tu l'entends immédiatement. Donc ça serait quand même plus facile pour éviter les bugs, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la vie courante. Et puis pour pouvoir bavarder avec d'autres personnes, pouvoir aller n'importe où et bavarder avec les gens, ça serait quand même nettement plus facile.
C'est certain.
Voilà. Bon, ça, c'était mon petit truc pour le dire. Alors, j'avais vu le... Je ne suis pas encore allée au musée des Beaux-Arts. T'y es allée, toi ?
Non, pas encore.
Alors, je ne suis pas encore allée au musée des Beaux-Arts. Et au musée des Beaux-Arts, il y a une exposition. Alors, ils ont donné... Pardon. Ils ont donné une carte blanche à quelqu'un qui s'appelle Nicolas Parti, qui est né à Lausanne, qui est en Suisse. Qui est un Suisse.
Francophone, italien, allemand.
Tu peux toujours le demander, je n'en sais rien.
Il est suisse, tout simplement.
Voilà, il est suisse. Mais il habite en Belgique, il habite à Bruxelles. Ah, ça te fait pas rire, celle-ci. Il habite à Bruxelles et je crois qu'il a son atelier à New York. Donc, tu vois, il y a vraiment...
Très cosmopolite, effectivement.
Voilà. Donc, d'abord, il a été connu comme graffeur. Et puis, il a obtenu un bac en art visuel à l'école cantonale de Lausanne. J'adore le dire comme ça, même si c'est très bête de faire ça.
Maltine, c'est latine.
Voilà, donc il vit et puis il travaille entre Bruxelles et New York. Donc c'était ce que je te disais, où New York, où se trouve son atelier.
Question, est-ce que les avions suisses vont à la même vitesse que les autres avions ?
Mais par contre, alors en parlant d'avions, j'ai envie de faire une petite...
Parenthèse.
Une petite parenthèse, en disant que quand on voyage avec... Des avions qui sont... Allez, je vais noter la British Airways parce que c'est contre eux que j'avais une dent. Étant donné qu'ils viennent au Québec, étant donné qu'ils viennent à des tas d'endroits où on parle français, je trouve ça pas normal que dans l'avion, on nous oblige à parler en anglais aux hôtesses qui sont là et qui ne connaissent pas le français, qui ne nous répondent pas en français. En tout cas, moi, j'ai eu affaire à ça il y a 3-4 ans en arrière.
C'est une compagnie anglaise, donc ils parlent anglais.
Est-ce que c'est une erreur de truc ou est-ce que c'est... En tout cas, j'ai trouvé ça dommageable parce que je veux bien qu'on parle anglais un petit peu partout. Mais moi, je ne suis pas obligée de le parler si j'en ai pas envie ou pas le besoin. Et donc... J'estime que quand je pars en voyage, ils pourraient me comprendre dans ma langue puisqu'ils viennent juste dans un pays qui est francophone.
Oui et non, parce que tu aurais pu prendre un vol Air France et là, tu aurais eu tes employés qui parlaient français.
Oui, eh ben, oui c'est vrai.
C'est parce qu'en fait, j'ai eu cette réflexion et on m'a répondu, j'ai la réponse, c'est que, en fait, c'est la langue par rapport à la compagnie. Donc, tu as pris British, elle est anglaise. Si tu vas sur Alitalia, ils vont parler italien. Si tu vas sur Qatari, ils vont sur Qatar. Et c'est des employés de la compagnie du pays, donc ils parlent la langue de la compagnie, ils ne parlent pas la langue de la destination, parce que c'est pas toujours les mêmes qui vont à ces endroits-là. Un mec, il va aujourd'hui, il va aller au Costa Rica, demain il doit aller au truc.
Il y a d'autres compagnies, tu parlais du Qatar, puis il y a d'autres compagnies où ils parlent plusieurs langues. Ils parlent l'anglais, ils parlent le français, ils peuvent répondre en plusieurs langues. Donc... Parce que je l'ai vécu sur d'autres.
Le prix n'est pas forcément le même, mais c'est parce que surtout, voilà, c'est qu'ils ne peuvent pas demander à tous les employés à ce niveau-là de vol de parler les langues des destinations, sachant qu'ils ne vont jamais dans la même destination. Imagine-toi, c'est pas compliqué.
D'accord, mais j'avais envie d'être désagréable et peut-être d'être de mauvais...
Mauvaise foi ? Non, jamais Arlette. Jamais Arlette.
Mais je m'en fous, je le reconnais.
J'ai pesté comme toi. Je prenais KLM pour aller retourner en Belgique, me parler en hollandais, ces astides. Hein. Et pourtant, j'allais à Bruxelles.
Et c'est la réponse que t'en as eue, d'accord.
Voilà.
Bon, alors je ne dirai plus rien. Je l'ai dit une fois, je ne le dirai plus. Voilà.
Non, mais pour certains faire un peu plus d'efforts, on est bien d'accord.
Donc, ils ont donné à Nicolas Parti entre les œuvres qu'il fait et puis les œuvres qui appartiennent au musée des Beaux-Arts. Ils ont donné carte blanche pour faire tout un décor, tout un suivi dans plusieurs salles, partant de tout ce qui a lien à la nature. Comment on voyait, on voit et on verra la nature. Voilà.
Et ce n'est pas des natures mortes ?
Pas obligatoirement.
En plus, il a été gaffeur, donc graffiti.
Oui.
J'imagine, je ne vois pas ses œuvres, mais j'imagine que ça doit être des peintures, effectivement, de nature ou autre.
On peut aller les voir. Alors, donc ça s'appelle... Alors, attends, que je le reprenne du départ. Ça s'appelle L'heure mauve. Alors, pourquoi L'heure mauve ? Parce que c'est un tableau du peintre symboliste canadien Osiak Leduc, qui fait partie de la collection du Musée des Beaux-Arts. L'or mauve, c'est paysages, portraits et nature morte, on en parlait à l'instant, d'objets du quotidien qui illustrent les liens souvent complexes, disent-ils, et inextricables. Tout le monde comprend le mot inextricable, qui unissent l'être humain à la nature. Voilà.
Ok.
Donc, ceci.
C'est contemporain, quoi.
Ceci expliquant cela. Mais il a été choisir des tableaux d'artistes tels que Gustave Courbet, par exemple.
Oui.
Donc, ça date quand même pas d'aujourd'hui.
Donc, ceux qui veulent voir de l'art contemporain, n'hésitez pas.
Non, mais c'est pour aller voir. Parce qu'en plus, il faut savoir que. Tout ce cheminement artistique qu'il a fait, l'autre intérêt pour aller le voir, c'est que l'auteur-compositeur-interprète québécois Pierre Lapointe, que moi personnellement j'adore, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'être comme moi, il a mis en chanson chacune des salles qui sont exposées et il a créé ou choisi des chansons qui vont avec ça. Donc ça doit être un moment assez formidable, à la fois pour l'éclatement des couleurs et à la fois pour les musiques qui suivent avec.
C'est visuel et auditif en même temps.
Voilà, donc allez le voir, c'est au Musée des Beaux-Arts. Pour le Musée des Beaux-Arts, donc, il a réalisé une bande sonore et il y a 14 en complément de l'expo, il y a 14 pièces musicales, ce qui veut dire qu'il y a un bon bout de chemin à faire quand même pour voir toutes les salles.
C'est bien pour
il y a
passer le temps au chaud, c'est
expositions.
Pas mal.
Ça peut être très beau. Moi, le mélange des genres de ce qui a été fait il y a très longtemps, en même temps de ce qui est fait maintenant, et arriver à faire une ligne directrice au milieu de ça, je trouve ça, c'est un beau défi. Bon, enfin, j'ai hâte d'aller le voir, ceci dit, je ne l'ai pas vu. On passe en musique. Alors, nous passons en musique avec
Pierre Lapointe.
Non, de nouveau là, les chansons sont c'est Maurice Bolduc qui me les avait trouvées la semaine dernière, donc toujours dans une prononciation extraordinaire, Slobodan Sajevic et Boban Markovic qui chantent Wedding, c'est Wedding parce que mon
Wedding, oui.
Parce que
Wedding,
ça...
mariage,
Wedding Cossack,
mariage Cossack.
Ça doit être ça. We'll be right back. Bon, alors voilà.
Ça fait que je disais en coulisses très Emi Kusturica, tu sais, la musique.
Kusturica. Ouais, enfin, oui, j'arrive jamais à prononcer son nom comme il faut, mais on voit tout de suite de qui on parle.
Kalashnikov. Je suis un fan, moi.
Alors, parlons un peu.
De quoi ?
Festif, parce que. À partir de cette fin de semaine, la semaine prochaine, il y a des théâtres qui rouvrent, il y a de la danse qui se refait jour, il y a des spectacles en salle. Mon Dieu, quel bonheur.
Il n'y a pas encore tout.
Bonheur. On va recevoir du monde, donc je n'en parle pas trop aujourd'hui parce qu'il y a des gens qu'on va recevoir et puis il y a des spectacles que je veux aller voir avant d'en parler aussi. Mais de ton côté, qu'est-ce qui se passe ?
Nous, de notre côté, on n'est pas encore ouvert parce que on n'a pas eu le temps, 15 jours pour se retourner, pour prévoir, pour machin, après avoir été fermé, couvre-feu, tout ça. Mais ça s'en vient tout doucement. On va démarrer avec une soirée, les soirées d'humour. Voilà, soirée stand-up la semaine prochaine. On a aussi le 20, notre soirée d'impro. Avec les cravates volantes, qui est une ligue...
Tu vas me parler des cravates volantes. Excuse-moi, j'ai encore envie d'en faire un autre. Tout doucement me fait penser à Molo, Molo.
Ah, vas-y, Molo. Et ça démarre Molo. Il a voulu qu'on y aille Molo, on démarre Molo. On suit ses directives.
Bon, ouais, je voulais faire une note d'esprit.
Donc voilà,
non,
par contre, l'impro, les cravates volantes, qui est une ligue qui était à l'époque au Petit Medley, le bar qu'il y avait à la Plaza Saint-Hubert. Ça fait 20 ans qu'ils existent. C'est vraiment très, très sympa. On est très heureux de les recevoir. Je vous conseille de venir.
Alors, c'est quand ?
C'est le dimanche 20 février, donc dans 15 jours. Ils viennent, ça se remplit déjà très bien et on espère pouvoir en faire 2-3. Parce que le dirigeant de cette ligue d'impro, c'est Roberto Sierra, qui est lui-même, qui a lui-même une école d'improvisation. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans qui sortent de chez lui au jour d'aujourd'hui, des artistes qui ont commencé à la scène impro chez lui ou autre. Et donc, voilà.
On redit un petit peu comment tu les as rencontrés. Je me rappelle que tu nous l'avais dit.
Les cravates, c'est simplement quand j'ai débarqué ici en 2014-2015, que je faisais des recherches.
C'est bien beau de ne pas savoir parler anglais, mais encore faut-il que le français soit bon.
Non, c'est du
mimétisme. Excusez-moi, mesdames, messieurs, c'est juste pour lui.
C'est du mimétisme, je parle du québécois. Je suis déménagé.
Alors, les cravates.
Donc, les cravates. Et puis, je voulais passer des soirées, découvrir un petit peu ce qui se passait dans le milieu culturel québécois et autres. Et donc, je vois différents spectacles. Et eux, ils étaient tous les dimanches là. Je dis, je vais aller voir, c'est sympa. Et j'ai bien aimé. J'ai été voir la LIM, j'ai été voir d'autres ligues qui n'existent plus pour le moment. Mais c'était les seuls qui m'avaient vraiment plu parce qu'ils n'étaient pas que sur les punchs. Que sur le côté drôle et joke, ils allaient aussi dans les côtés poétiques, ils allaient aussi dans les côtés d'émotion. Les improvisateurs, pour moi, c'est des comédiens, eux, étaient vraiment bons, étaient justes. Et c'est ça qui me plaisait. Que tu allais dans la lime, c'est absolument, il fallait faire une joke, il fallait absolument faire rire, il fallait absolument tenir le rythme. C'est pas ça l'impro. L'impro, il y a ça, mais c'est pas juste ça. Et donc, eux, ils ont tout ça. Et c'est comme ça que du coup, j'ai sympathisé avec eux et tout. Je voulais les avoir. Et ça y est. Ils sont chez moi, ça fait 5 ans, donc je suis content.
Cool, ça c'est une bonne chose. Est-ce que tu as entendu parler, alors toi tu as le théâtre de la comédie, avec d'autres théâtres, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, je veux dire de ceux qui reçoivent pas beaucoup de subventions ou pas.
De petites jauges, c'est ça, oui.
Petites jauges. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Est-ce que quand on a un théâtre de taille moyenne, enfin qui ne peut pas assumer certaines choses, est-ce qu'on a plus peur d'ouvrir en sachant pas ce qui va se passer avec la fameuse réplique de on y va mollo mollo, ou est-ce que on a l'envie, on se lance quand même
C'est pas une question d'envie parce qu'on a toujours envie. Ce qu'il y a, c'est que le milieu culturel s'est fait avoir deux fois, où deux fois on a dû se réinventer et deux fois on est reparti.
Oui, c'est vrai aussi,
et là, c'est la troisième fois où on s'est fait couper les ailes, donc en fait, on n'a plus confiance en ce gouvernement, en ce truc. Donc, on y va mollo, effectivement. On attend de voir. Est-ce qu'il va de nouveau changer d'avis dans 15 jours ? C'est parce qu'en fait, il faut savoir que les salles de spectacle sont les endroits les plus sécuritaires au Québec. Il n'y a eu aucune éclosion.
On l'a assez répété.
Voilà. Et on a été les premiers à être fermés et les derniers à être ouverts avec les bars. Mais il y a eu des éclosions dans les bars, donc ça, c'est un peu, entre guillemets, se comprendre. Mais je suis de tout cœur avec eux aussi. Et donc, on y va tranquille. Et puis surtout, 50% de jauge, obligation de porter le masque et passeport vaccinal, mais 50% de jauge, hors avant la fermeture, c'était 100%. Donc le problème qui se pose, c'est que tu as beaucoup de salles de spectacle qui sont remplies à 100%, mais qui ne peuvent ouvrir qu'à 50%. Comment tu fais ? Oui. Comment tu choisis les 50% qui peuvent venir et les 50% qui ne peuvent pas venir ? Tu vas appeler les gens un à un. Bon, vous, vous pouvez, vous ne pouvez pas. Ah, est-ce que vous voulez ? Alors que les deux fois d'avant, ils ont déjà dû les rappeler 15 fois, reporter, annuler. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils disent, j'ouvre pas tant que ce n'est pas changé. Moi, j'ai des amis de théâtre même subventionnés qui ont dit, non, nous, pour le moment, on a annulé, on attend mars. Parce que comment veux-tu qu'on prépare les gens ? D'autres ont pu ouvrir, ça coquine avec ça, font deux représentations dans le soir, oui, pour voilà, pouvoir cumuler ça. Tout ça et tout. Mais c'est pour ça que tu ne vois pas beaucoup de spectacles. Tu en as peut-être, mais tu n'en as pas beaucoup. Et pour répondre à ta question des petites salles, les petites salles, c'est la même chose. C'est, bon, t'as, par exemple, à 50 places, tu tombes à 25. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Chacun voit. Mais surtout, c'est qu'on n'a pas eu le temps de se préparer en 15 jours. Oui. Parce que il faut rappeler les artistes. Est-ce qu'ils sont dispo ? Faut répéter. Faut faire la promo. Parce que c'est bien de rouvrir, mais si t'as personne ou si t'as pas les artistes pour jouer, tu fais quoi ? Donc, déjà, c'est facile de... Tu fermes en un claquement de doigts, c'est la marde, mais t'ouvres pas en un claquement de doigts l'art. Donc, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place.
C'est ça, c'est vraiment pas comme un restaurant ou comme un bar. Donc, exact. C'est beaucoup plus difficile. Il faut qu'on le sache quand même. C'est pas parce qu'on dit, ah oui, on va rouvrir les théâtres. Mais il y a ceux qui ont les moyens de le faire, ouais, qui ont donné les moyens, qui peuvent le faire. Et puis, il y a les autres qui voudraient bien, mais qui peuvent point.
Et souvent, ceux qui peuvent, c'était qui étaient en web, qui pouvaient retransmettre, oui, leur machin, etc., et qui ont toujours un petit peu tourné. Les autres, comme nous ou d'autres théâtres qui étaient complètement fermés, non, c'est pas aussi évident que ça. Il y avait des programmations qui étaient prévues, donc des productions qui étaient là. Donc, comment tu fais ? Ceux qui n'étaient pas là, c'est d'un compliqué. Il nous a vraiment mis dans la merde. Et c'est démerdez-vous là, c'est à chacun votre truc.
Oui.
Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Parce il y en a qui attendent des aides, les artistes qui ne mangeaient pas, qui n'avaient pas droit à des aides, quels qu'ils soient, parce qu'ils n'étaient pas programmés, qui ont trouvé autre chose, qui ont quitté. Donc il y a les dépressions, il y a plein de trucs qu'on n'entend pas forcément en parler, mais qui vont s'en venir
dans
les mois qui
viennent.
Non, je trouve
qu'on n'entend pas en parler, mais par contre, on va les voir, parce que ça ne peut pas être passé comme ça. Ça ne peut pas se dire, ah ben, on a fait ça, puis maintenant, on ne fait plus ça, puis maintenant, on rouvre, puis maintenant, on fait ça. On ne peut pas jouer avec le monde de cette manière-là.
Exactement. Ça commence à poindre dans les médias, mais comme toujours, les médias préfèrent parler de camionneurs qui sont en train de faire des klaxons partout, plutôt que de parler des gens qui sont en train de crever ici, même partout au Québec, et depuis 2 ans. Depuis 22 mois. Donc, il y a ça aussi. Mais tout ça va sortir tout doucement. Et puis, les gens, est-ce que les gens ont envie de sortir ? On leur a dit, pas de contact, arrêtez. On a créé une peur, une scission. Et puis, les gens ont pris l'habitude de rester chez eux avec Netflix, Disney et se faire livrer des restaurants. Pourquoi ils vont sortir à moins 30 ? Tu sais, il y a tout ça qui fait que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On a perdu la confiance du public à cause des restrictions du gouvernement. Et ça, ça va nous prendre énormément de temps en tant qu'artiste, en tant que salle, en tant que théâtre, à récupérer. Parce que de report en annulation,
aussi, hein,
les habitudes sont perdues. Les gens disent, ouais, moi j'en ai marre, je me suis fait annuler 4 fois, me faire rembourser, ça a été... Qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, on attend. Et donc, en fait...
Oui, c'est ça, chacun pour soi.
Voilà, ce sera à mon avis pas avant fin du printemps, vers avril-mai, qu'on va avoir un début de frémissement. Peut-être l'été, les gens auront envie de ressortir, ayant été enfermés, tout ça. On va voir l'hiver prochain, parce que si c'est comme là, à chaque fois, attention. Donc, on ne sait pas où on s'en va. Donc, on y va tous effectivement mollo. Mais on a hâte, bien sûr, de retrouver le public, d'être sur scène, d'amuser pour ma part les gens. Et puis, y en a qui, même si ce n'est pas rentable, vont peut-être le faire. Moi, j'ai une amie qui démarre au Prospero, dans la petite salle.
Oui.
Il y a 52 places, elle est à 50%. Mais bon, tout est fait, elle est là, elle a envie de le faire, c'est son show, elle n'a pas d'autre... voilà.
Je comprends tellement, mais tellement. C'est,
Et on parle d'un autre, et moi je vais parler d'un autre problème qu'on a pu voir aussi, les cabanes à sucre. Mais ça... On peut
ça sera
en
pour une
après.
Autre fois, oui. Là, on va repartir en musique avec Alex Burger qui nous chante « Je prends ça pour du cash ».
C'est son nom, Alex Burger ?
Oui.
Tant que c'est pas indigeste.
Sur une île secrète dans l'angle mort, et du sol. temps coulé, un petit besoin d'un sablier. Je commence à être tanné de chercher des boussoles dans l'eau. C'est tu qui va fucking me tuer. Mais voyons, c'est tu qui va fucking me tuer. Si je prends ça pour du cash, c'est parce que j'en ai pas. Si des fois j'en arrache, tu le sauras même pas. De partir pour la gloire, je partis sans trop. Chanter puis faire la boucane, moi je sais. Ah je sais, j'ai pas du monde pour toi. Hey, petit gars, cherche la chandelle en se brûlant des deux côtés. Ben voyons, c'est-tu toi qui veux fucker te tuer. Ben voyons, c'est-tu toi qui veux fucker me tuer. Si je prends ça pour du cash, c'est parce que j'en ai pas. Si des fois j'en arrache, tu le sauras. C'est tu qui veux fucker te tuer. Ben voyons, c'est toi qui veux fucker te tuer. Si je prends ça pour te cacher parce que j'en ai pas. Si des fois j'en arrache, ben tu sauras même pas. Si je prends ça pour te cacher parce que j'en ai pas. Si des fois j'en arrache, ben tu sauras même pas.
C'est chaud dans le studio, c'est chaud.
Et voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission.
Oui,
merci beaucoup. Là, on se sourit encore parce que tout à l'heure, on s'arrachait les yeux. Donc, merci beaucoup, Germain Stouki, d'avoir été là. On te donne rendez-vous la semaine prochaine.
Nicolas, il est tranquille, il est derrière
sa vitre. Merci, Nicolas Zwartmann, pour la technique. Merci à Maurice Bolduc pour les chansons. Et puis, on se retrouve demain. Demain est un autre jour. Alors, à demain. Merci à
moi,
vous.
Moi, c'est
toutes,
lundi
vous
prochain.
Tous.
Moi, demain,
et toi,
je suis
c'est
pas
lundi
là.
Prochain,
je suis en répétition, justement.
À lundi prochain, vous
t'as
toutes
vu
et
on
tous,
répète
à
pour
demain.
Le mois prochain. Bye bye.
Soyez là, même heure, même endroit. Bye.